Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
Ici, toujours au Parlement européen, je vous rappelle que la semaine prochaine, jeudi 2 mai, une émission exceptionnelle backseat à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a 1200 places, n'hésitez pas à prendre vos places, le lien est dans le chat et en description de cette vidéo YouTube. Vous aurez le droit à 17h à un jeu de rôle animé par Fibre Tigre et la team backseat, un jeu de rôle spécial politique. Et dans la deuxième partie d'émission, on continue, on ne quitte pas l'antenne, on sera toujours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne et vous pourrez assister à un grand oral des têtes de liste à l'élection européenne. On sera à quelques jours seulement du premier tour, donc une programmation absolument exceptionnelle que nous vous proposons en partenariat Backseat Libération. D'ailleurs, Libération, avec le code promo Backseat, vous pouvez avoir un mois gratos, même pas besoin d'enregistrer sa carte bancaire, tranquille, allez-y, profitez-en. À un mois du premier tour des européennes, c'est à mon avis le bon moment pour choper un abonnement gratos à un grand quotidien national. Surtout, n'hésitez pas. Chers amis, je vous propose qu'on parle de l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Et l'actualité, elle a été marquée cet après-midi par un discours d'Emmanuel Macron, un discours fleuve dans le grand amphi de la Sorbonne, l'amphi-backseat. un discours fleuve, un discours de la Sorbonne sur l'Europe. C'est important de rappeler que ça fait écho à un ancien discours de la Sorbonne. Quand on parle du discours de la Sorbonne, on parle d'un discours qui a été prononcé le 26 septembre 2017 par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Il n'était plus candidat, il était président de la République et il avait voulu marquer le coup en donnant sa vision de l'Europe. C'est là qu'il avait parlé d'autonomie stratégique, c'est là qu'il avait fait un long discours auquel on s'est tous référé en parlant du fameux discours de la Sorbonne, l'ambition européenne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est effectivement un grand européiste. Et il avait prononcé ce discours. Et là, à quelques semaines du premier tour des élections européennes, tiens comme par hasard, il nous refait le coup du discours de la Sorbonne. Un discours que j'ai regardé cet après-midi. Il a duré 2 heures, le discours. Je me le suis bouffé en vitesse x2 sur YouTube. C'est pas une blague.
Et c'était vitesse 1.5 ici.
Toi, t'as une vitesse 1.5. Moi, j'ai accéléré, j'en pouvais plus. Donc, x2 pour moi, pour écouter ce long discours fleuve d'Emmanuel Macron. On va avoir l'occasion d'en parler de ce discours d'Emmanuel Macron, mais d'abord une question que je vous pose, est-ce que c'est l'entrée en campagne finalement d'Emmanuel Macron pour ces européennes?
On attendait que la campagne de Renaissance démarre. Elle a commencé, on avait donc le directeur de campagne de Valérie Ayer, Emmanuel Macron, aujourd'hui à la Sorbonne.
Ah oui, c'est ça. Mais pas la candidate principale.
Mais on attend toujours Valérie Ayer pour faire un grand discours, voilà.
Mais personne ne la respecte, en fait. Genre, Attal, il ne la respecte pas. Il était là en mode, non, mais la campagne n'a pas trop commencé et tout. Elle était là en mode, je fais des tractages, monsieur.
C'est très particulier, la campagne de la République en marche, pardon, qui s'appelle Renew, Renaissance. D'ailleurs, c'est important, le nom Renew, c'est le nom d'un groupe européen. Mm-hmm. Et c'est important pour le parti d'Emmanuel Macron de porter le même nom que le parti européen. C'est pour dire à quel point ils sont très européistes. Parenthèse fermée, c'est très, très bizarre, cette campagne, effectivement, qui se fait à plusieurs voix. Valérie Ayer est très peu audible. Emmanuel Macron en majesté et Gabriel Attal au quotidien à la Sarkozy, des annonces.
On avait déjà vu ça avec Nathalie Loiseau à l'époque à la dernière élection européenne où ça avait tardé, ça avait pris du temps. Nathalie Loiseau n'était pas très audible et c'était Emmanuel Macron qui avait pris la parole par des petits discours détournés, des petites prises de parole détournées pour faire campagne. Bon, est-ce que c'est faire? Chacun pense ce qu'il veut.
Emmanuel Macron, dans ce discours de la Sorbonne d'aujourd'hui, a martelé un thème qui lui semblait important, c'est l'Europe est mortelle, l'Europe peut mourir, et ça ne dépend que de nous et de nos choix. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron souhaite marquer le coup en donnant une espèce de gravité à la situation. Mais c'est une ficelle qui est un peu classique chez Emmanuel Macron de donner de la gravité les gens ne se rendent pas compte, on dépense trop d'argent depuis le Covid...
C'est la même chose pour la dette, c'est la même chose pour le déficit, c'est la même chose pour l'Europe, c'est la même chose sur la rhétorique du réarmement, le réarmement démographique, le réarmement militaire.
Absolument. Sinon, on va perdre la guerre.
Avec Emmanuel Macron, et même d'un point de vue natalité, avec Emmanuel Macron, on a toujours l'impression d'être au bord de la falaise.
Ouais.
Alors parfois, en tant que jeune, on va lui dire « la faute à qui ?» Ça va faire 10 ans que t'es là, poteau.
Non, mais c'est vrai, il a quand même un argument que je vous propose d'interroger, c'est le risque qui pèse sur la démocratie libérale. Le modèle de la démocratie libérale, le modèle historique européen, avec des élections, avec des représentants, avec des partis, avec des médias libres, etc., est aujourd'hui tensé violemment par des empires phénoménaux comme la Chine, la Russie, l'Amérique de Trump. Est-ce qu'effectivement, Macron n'a pas quelque part raison lorsqu'il dit que l'Europe peut crever?
C'est une énorme question. Je ne sais pas si vous voulez répondre avant.
Alors, moi, je me lance.
Allez, vas-y.
En fait, moi, je trouve que Macron n'est pas le démocrate qu'il prétend être en termes de partage du pouvoir. Donc, ne serait-ce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Valérie Ayé. Moi, je pense... Je suis en train de me demander si Clément Beaune, qui a malheureusement été touché par la malédiction Baxit, donc c'était l'ancien... donc il était ministre ou secrétaire d'État, je me rappelle.
Ministre
des Transports. Son fer de lance sur les questions européennes. Est-ce que ça aurait été vraiment pareil? Déjà, ça, c'est la première question, parce que je trouve que déjà, en plus, à En Marche, on a un rapport assez spécial aux femmes. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en fait, en France, en termes de violence policière, en termes de partage du pouvoir, etc., on n'est pas les plus démocrates. Après, on n'est pas la Chine non plus, on n'est pas la Russie non plus, certes, mais des fois, il faut quand même un peu
aller devant ça. Non, mais je te suis, Lorraine. La réalité, c'est qu'il faut aussi se dire les termes. On traverse une crise démocratique. Et c'est vrai que la première responsabilité incombe à Emmanuel Macron, à sa gouvernance. Il faut quand même se rappeler de la manière... Notre génération a été traitée après des mouvements sociaux, après le post-49-3 suite à la réforme des retraites, avec même le 49-3 en soi. Et moi, ce que je me rends compte aussi quand on parle à des gens de tous les jours, même moi, ma maman qui est aide-soignante, je suis désolée, je parle un peu de ma vie, mais j'ai l'impression que, en vrai, on parle de nos vies. Elle est aide-soignante et elle me disait, en fait, moi, la démocratie, ça ne me touche pas dans mon quotidien. C'est-à-dire que le sens au travail, je ne le retrouve pas. Ce n'est pas moi qui décide de comment je peux mener mes missions, comment je peux mener mon travail, comment je mène mon emploi du temps, quel sens je donne à ça aux patients. Voter, ça n'a pas de sens pour moi parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas ce pourquoi je vote. Quand je vote, j'ai l'impression qu'on trahit le programme pour lequel j'ai voté. La pratique du pouvoir qu'on est en train de connaître, elle s'autoritarise. Et oui, on est en train de faire face à une crise. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de régime. Évidemment qu'on reste dans une démocratie qui respecte certains droits fondamentaux, bien que pour moi, on reste en ce moment dans une montée en autoritarisme. Il faut voir la manière, on en parlera, dont a été traité le mouvement pour la Palestine. Et du coup, pour moi, on va peut-être faire face à deux blocs. C'est-à-dire que, je ne veux pas être alarmiste, mais on va être dans un temps, pour moi, de flou dans les années à venir, où il y a des gens comme moi, j'assume, qui se mobilisent pour une autre démocratie, pour une démocratie où c'est en fait les gens qui travaillent, qui pourront prendre les décisions leur lieu de travail, qui pourront en fait occuper une représentation des décisions. Et ça, du coup, c'est sortir de la démocratie libérale. C'est une autre forme de démocratie qui est une démocratie des travailleurs et du partage. Et après, moi, je pense qu'il y a des gens qui portent d'autres projets politiques. Et là, c'est celui de l'extrême droite. Et là, dans ce cas-là, c'est une partie de la société qui, face à cette crise libérale, vont demander plus d'ordre, plus d'autoritarisme. Ça va être très compliqué.
Peut-être que c'est pour ça que Macron dit que la démocratie est menacée quand on a un Bardella à plus de
30%. Mais c'est ça, mais c'est quelle démocratie? Et c'est cette démocratie libérale.
Malak. Et surtout, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'on se demande où est la promesse européenne, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un cycle, est-ce que l'Europe ne va pas finir par mourir. Ça partait surtout du point de vue que les électeurs, en réalité, s'en tapaient un petit peu. Là, en réalité, si on prend même aussi les dirigeants européens, on va prendre par exemple en Italie, d'autres dirigeants un petit peu partout en Europe, la vision, en fait, n'est plus partagée. Et donc, c'est pour ça que la promesse est mise en danger. Tout le monde n'est plus d'accord, en fait, autour de la table. Qu'est-ce qu'ils veulent, en réalité, tous? Est-ce qu'ils sont tous d'accord aujourd'hui sur ce projet européen, sur cette nouvelle Europe, sur l'Europe de la défense dont nous a parlé Emmanuel Macron cet après-midi, sur ce réarmement, sur tout ça? Est-ce qu'ils sont tous d'accord, en réalité? On le voit même, d'ailleurs, sur la question ukrainienne. Certains se prononcent plus que d'autres, et c'est un vrai débat qu'il faut se poser.
Il y a une évolution entre le Macron de 2017 et le Macron de 2024. Il est moins béni oui, il est moins dans l'incantation vis-à-vis de l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il y a un bilan. Déjà, il est obligé de défendre un bilan, et il le fait. Il met en avant les succès de l'Europe, l'accord franco-allemand pour un endettement commun qui a donné naissance à 800 milliards d'euros de plan de relance. C'est un truc qui est absolument phénoménal, et ça il en fait des tartines dessus. Plusieurs accords qui ont été trouvés au niveau européen, y compris des législations récentes, le pacte vert. Alors il met un peu en sourdine le pacte vert à cause des agriculteurs. Le pacte asile-immigration, ça, pour le coup, il est dans le « j'assume ». C'est une responsabilité de chef d'État, de gouvernant européen. D'ailleurs, il l'a redit, l'Europe doit se réarmer par
ses frontières.
C'est par ses frontières que l'Europe défendra son identité, etc. Ça, pour le coup, c'est extrêmement assumé de sa part. Pour le coup, j'ai eu du mal à trouver dans son discours de cet après-midi un souffle nouveau, une vision nouvelle, une volonté... j'ai l'impression que lui aussi, c'est un peu les illusions perdues, quoi.
Ouais.
C'est fini l'Europe qui fait rêver, maintenant c'est l'Europe du réalisme brut. Il a dénoncé, et c'est assez juste, le fait qu'on joue avec la Chine et la Russie qui ne respectent plus les règles, qui ont décidé de sortir des règles internationales. Et donc Emmanuel Macron, il dit il faut un sursaut européen, il faut que l'Europe se réarme, il faut que l'Europe comprenne qu'elle va devoir se battre avec des gens qui ne respectent pas les règles.
Tu l'as dit, il y avait un truc très rêveur. Je rappelle que Emmanuel Macron, quand il gagne en 2017, il fait son entrée devant le Louvre avec l'Ode à la joie en fond sonore.
Oui.
Il fait cette grande marche. Il nous a fait des grands discours pendant la campagne de 2017. Aujourd'hui, tu l'as dit, il est porteur d'un bilan. Et aujourd'hui, cet après-midi, est-ce qu'on a eu quelque chose de nouveau en fait pendant ce discours? C'est pour ça que je me demande en fait, je me demande l'intérêt en fait de ce discours de la Sorbonne 2024 à part servir la campagne électorale de Valérie Ayé. C'est pas un discours de chef d'État qui veut balancer de nouvelles idées et une nouvelle vision et proposer des choses. On n'a entendu que des choses qu'on avait déjà entendues, mais avec de nouveaux termes, et rien de nouveau en tout cas.
Si, il propose la majorité à 15 ans pour le numérique.
Ah.
L'interdiction de s'inscrire sur des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, sauf accord des parents.
L'Europe est sauvée donc.
Waouh.
Safia, toi, tu as été marquée par le discours de Gabriel Attal sur la jeunesse.
Tout à fait, j'aimerais vous en parler parce qu'en fait, Lorraine en parlera mieux que moi, mais la réalité, c'est que au-delà de Valérie Ayé, on a dit il y a Emmanuel Macron, mais aussi Gabriel Attal qui viennent agiter le spectre des élections européennes avec justement cette conférence qu'il y a aujourd'hui, mais aussi avec les réformes de Gabriel Attal qui sont successives. Et à Gabriel Attal, il s'adresse spécifiquement à nous les jeunes, mais d'une manière qui est assez hardcore, parce qu'en réalité, dans un corps de jeune, il fait du vieux. Je m'explique.
Ses
annonces, elles reposent sur deux piliers. Le premier, c'est qu'il souhaite réformer, si vous voulez, la justice pour mineurs, pour simplifier. Dans la justice pour mineurs, il y a un principe assez clair, qui s'appelle l'inversion de principe. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne suis pas juriste, mais qui en fait, si vous voulez, découpe la peine en deux pour les mineurs, qui la réduit de moitié la plupart du temps.
La peine encourue.
Exactement, la peine encourue de moitié. Et lui, il veut revenir sur ça parce que vous l'avez sûrement vu, on est dans une ambiance où eux vont beaucoup parler de parents défaillants, de jeunes des quartiers populaires, de rixes, de jeunesse violente, de violente d'une jeunesse qui serait matrixée par les réseaux sociaux et les jeux vidéo, etc., faisant totalement fi en fait, de nos conditions sociales, de nos conditions économiques, de la ghettoisation qu'on subit, de l'état de l'éducation, de l'école, etc. Et en fait, il a totalement déporté le débat justement sur cette question qui est plutôt en, fait, en réalité assez autoritaire. Il faut savoir que cette revendication, elle a été portée par le Rassemblement national en 2022. Et vous allez retrouver possiblement un article dans Le Monde qui dit très bien, en réalité, ça fait 80 ans que tout camp politique de tous bords essaye justement de s'attaquer à la justice pour mineurs. Et enfin, le deuxième pilier, c'est celui, vous savez, les annonces sur l'internat. Il s'est beaucoup fait moquer Gabriel Attal justement par des jeunes et j'ai kiffé comment ces jeunes ont pu lui répondre justement. Et justement, il disait, voilà, il faut que les jeunes à la dérive puissent aller à l'internat. Alors premièrement, c'est quoi être à la dérive? Tu parles de quoi? Du fait qu'on a du mal à manger à la fin du mois quand on est dans les quartiers populaires, que nos parents sont ouvriers, que quoi, qu'on a des difficultés scolaires, comment est-ce qu'on nous prend en charge, les moyens pour les profs? Pas du tout, c'est un flou intergalactique, la jeunesse à la dérive. Et il incite à un volontariat dirigé. C'est-à-dire, il aimerait que l'école, l'académie, le rectorat forcent un peu, mais pas trop, mais forcent bien, bien, bien quand même les parents à envoyer en fait les enfants, les élèves dans des internats que eux auront choisi avec le personnel qu'ils auront choisi, qui sera sûrement un personnel de type SNU. Vous voyez le genre de mise au pas très brute qui sera. En réalité, pourquoi est-ce que c'est encore du vieux et que c'est pas du neuf et qu'il a pas sorti cette idée de son chapeau? Il faut savoir que l'internat, c'est une vieille idée issue de la colonisation. En réalité, pendant la colonisation, les pouvoirs coloniaux, en lien avec l'Église, ça s'est beaucoup fait au Canada, mais aussi en Afrique, ont regroupé soit les jeunesses autochtones, soit les jeunesses colonisées, une certaine partie, dans des internats pour être sûr que cette jeunesse, qui parfois est difficile, hein, on lui miette bien les valeurs dans la peau et dans le cerveau, vous savez, dans un élan un peu de mission civilisatrice. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est différent, qui n'est pas celui de la colonisation, mais Gabriel Attal est en train d'emprunter à cet esprit-là pour en réalité nous mettre au pas et nous mettre des valeurs dans la tête qui sont en réalité totalement à l'opposé des valeurs d'émancipation que la jeunesse essaye de porter.
Bon, en fait, c'est ça. Quand on n'a rien à proposer, en fait, finalement, de nouveau, et justement, il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux, que ce soit dans le discours d'Emmanuel Macron et dans celui d'Attal, bah, finalement, on recycle.
On recycle, et mais...
On recycle jusqu'à même dans le programme de son concurrent direct.
La question, c'est quel match on joue. Moi, j'ai l'impression qu'il joue le match contre le RN. Il est là, l'enjeu.
Bah,
encore. C'est nouveau, ça.
T'as vu, non, mais c'est... Tu vois, c'est... on est étonnés.
Cet autoritarisme, il vient de là. Et on sait qu'il se dispute un électorat relativement âgé.
Exactement.
Et un électorat âgé, quand tu leur vends une image sépia de l'école d'antan avec la blouse et le maître qui tape sur les doigts des élèves, ça, ils adorent, les vieux. Mais ils n'ont pas foutu un pied dans une école depuis 40 ans. Donc, on a cet enjeu-là, ils se battent autour. On a un enjeu démographique majeur. Mm-hmm. Les jeunes sont minoritaires, c'est une minorité éternelle, la jeunesse, par définition. Ouais. Mais c'est une minorité aussi démographique en ce moment et qui fait qu'elle ne peut pas gagner dans les urnes. Donc, on est obligé de faire avec des vieux.
Bah,
donc,
déjà,
un jour, il va falloir convaincre les vieux d'arrêter de mal regarder les jeunes.
Ouais. Non seulement déjà, elle ne peut, enfin, on est minoritaire en tant que jeune, mais aussi, en plus, on ne se mobilise pas. Donc, ils sont là. À quoi bon leur parler ? Au contraire, on va un peu jouer un match intergénérationnel, génération contre génération. Et voilà, en fait, et c'est tout ce qu'il y a à proposer pour l'instant.
Sur le match Renaissance-RN, en fait, au-delà d'être une recette qu'on a déjà vue et revue, il est un peu bloqué, en fait, Emmanuel Macron, parce que Quentin le disait très bien tout à l'heure, Bardella aujourd'hui ne défend plus le Frexit, c'est ce que défendait à l'époque.
Il défend plus rien, c'est aussi ça la nouveauté. Ouais, on va en parler. On va en parler tout à l'heure.
Il défend des TikTok, c'est plus sympa. on peut même prendre aussi du côté de la France Insoumise qui défendait donc un plan A, un plan B. C'est plus vraiment le discours aussi de Manon Bry. Donc aujourd'hui, sur cette confrontation où c'est ce qu'il aime bien de faire ça, Emmanuel Macron, c'est il dit à chaque fois c'est moi ou le chaos. Évidemment que l'extrême droite ce sera toujours le chaos, mais bon, en réalité, il fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, il ne fait que faire monter l'extrême droite. On en parlera tout à l'heure avec notre invité politique, mais je pense que la majorité a une petite responsabilité.
Alors, on va parler de l'extrême droite, mais avant ça, il y a un autre discours qui a été prononcé hier.
Qui ça ?
C'est Raphaël Glucksmann, figure-toi. Ah. Raphaël Glucksmann qui a vu le discours de Macron prévu le 25, il s'est dit « Oh putain, j'ai un discours la veille, je vais te faire le meeting de l'année, mon gars. » Et il a tout fait péter, c'était ici à Strasbourg, il en a fait son grand discours de campagne juste avant le discours d'Emmanuel Macron. Discours intéressant pendant lequel il a dénoncé la faillite stratégique de Macron face à Poutine. Mmh. Ce que veut dire en fait Raphaël Glucksmann, c'est que 2017, discours de la Sorbonne, plein de volontarisme d'Emmanuel Macron, le grand européen, etc., 2020, c'était en quelle année Poutine, c'était 2019. Oui, c'est ça, la russophilie d'Emmanuel Macron en 2019, qui invite Vladimir Poutine à Versailles pour discuter. Selon Raphaël Glucksmann, ça a tué complètement l'esprit européen d'Emmanuel Macron. Raphaël Glucksmann, il est connu politiquement pour ses combats internationaux. Il est connu pour sa défense des Ouïghours, qui est une minorité musulmane opprimée par la Chine. Et il est connu pour sa défense de l'Ukraine, envahie par la Russie. Est-ce que ce diptyque-là suffit à faire une campagne pour Raphaël Glucksmann ? Visiblement, dans les sondages, ça a l'air de le porter. Elle était bonne, cette question.
Moi, je pense qu'il joue sur plusieurs plans. Peut-être Malek t'en parlera mieux que moi, mais il y a un premier électorat, moi, je pense, avec la question internationale Ouïghour. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Et pour moi, il y a un autre électorat sur la question de la défense.
Oui, je ne suis pas du tout docteur en sciences politiques et je salue l'ami Antoine Bristiel. Le docteur.
Il a fait une super interview d'ailleurs, allez la lire.
Ouais, ouais.
Figaro.
Mais mangez tout ce que fait Antoine Bristiel, mangez-en, c'est bon pour la santé. Vas-y, continue Malek.
Il y a une forme de vote utile, comme c'était un petit peu le cas pour Jean-Luc Mélenchon sur l'élection présidentielle de 2022. Il y a une forme de vote utile là autour de Raphaël Glucksmann. On voit que 27% qui ont voté, 27% de ceux qui se prononcent aujourd'hui, comme voulant voter pour Raphaël Glucksmann, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. 10% ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on voit qu'en réalité, il veut faire un petit peu ce pont de « je remplis l'espace entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ». Mais sauf qu'en fait, à force de vouloir faire un grand écart, mon grand, tu vas finir par te claquer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de flou, qu'il y a d'un côté celui qui parle sur ces sujets internationaux mais pas tous, j'en parlerai après, et ce sérieux sur la défense. Et on l'a vu hier aussi, d'ailleurs, dans son discours, il se pose en confrontation directe à Emmanuel Macron pendant tout son discours. Voilà,
oui,
il est le premier opposant à Emmanuel Macron.
Premier opposant Emmanuel Macron qui essaye de défendre une nouvelle vision d'une Europe anti-Macron. Safia, et après on parlera des sondages, c'est intéressant.
Ouais, parce que moi, du coup, je voulais parler de l'autre partie de l'électorat qui essaye de séduire Raphaël Glucksmann, qui est plus la partie, on va dire, macroniste de l'électorat. Moi, je pense qu'en réalité, il ne se crame pas beaucoup en parlant des Ouïghours et de l'Ukraine avec l'électorat macroniste ou plutôt parti socialiste. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on parle des Ouïghours, en réalité, on parle de la Chine et de l'impérialisme chinois, etc. Par contre, Raphaël Glucksmann va toujours se garder de parler des sujets internationaux qui ont à voir avec les responsabilités occidentale. Et c'est pour ça que, notamment sur la question de la défense, Raphaël Glucksmann est très aligné sur la position d'Emmanuel Macron, où en réalité les deux rêvent d'un Occident qui est fort, d'une Union européenne qui est forte. Raphaël Glucksmann est quand même ultra guerrier, en fait, dans le meeting qu'il a eu hier. Il rêve d'une Europe de la défense, il est très otaniste en réalité. Moi, je sais qu'en tant que jeune, ça me fait assez peur parce qu'on est dans un contexte d'escalade militaire qui est très préoccupant. Mais du coup, sur ça, justement, il a fait une accusation à Emmanuel Macron, vous l'avez peut-être entendu, c'est Emmanuel Macron, grosso modo, il fait du blabla alors que moi, je suis un homme d'action, et c'est là où il va essayer de manger sur l'électorat.
Pour préparer cette émission, on s'est amusé à aller rechercher les sondages du mois d'avril 2019, pour voir ce que ça donnait avant l'élection 2019, pour comparer avec les résultats. Je ne sais pas du tout si ce sera la même au cours de cette élection, mais il y avait eu des surprises. Par exemple, les Républicains, ils étaient surestimés dans les sondages. Ils étaient donnés à 15%, ils se sont pétés la gueule à 8%. Et là, ils repartent avec la même tête de liste. La République En Marche, ils avaient fait exactement le même score que ce qui était prévu par les sondages, c'était 22%. Les socialistes, ils étaient prévus à 6, ils ont fait 6. Ils ont fait exactement ça. Et ensuite, tu as le duo Vert-France Insoumise, où il y a eu une inversion complète. La France Insoumise était donnée à 9% et ils sont tombés à 6% finalement. Et les Verts, ils étaient donnés à 8%. Et agréable surprise pour les Verts, ils sont montés jusqu'à 13%. Je ne sais pas si on aura les mêmes dynamiques au cours de cette élection, mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas à gauche, c'est Raphaël Glucksmann qui est aux alentours de 12%. Est-ce qu'il est surestimé? J'en sais rien. Tu parlais d'un vote utile, toi, tout à l'heure, Malek.
Oui, et ce que je voulais dire surtout, c'est que les Verts aujourd'hui sont annoncés très bas.
Ouais.
Et ils jouent un petit peu dans les médias aujourd'hui sur cette petite musique de oui, mais aussi on était annoncé très bas en 2019 et regardez ce qu'on a fait.
Ils jouent là-dessus, bien sûr. Et ils se le disent en interne.
Donc suivez le train. Notre partie gauche. Moi, ce qui m'inquiète aussi surtout, c'est le score que l'on attribue aujourd'hui dans les sondages à Jordan Bardella pour l'extrême droite. Pour le Front National, on l'annonce à 32%. C'est énorme. Est-ce qu'il est surgonflé ou est-ce que, et moi c'est peut-être un petit peu même ma peur, est-ce qu'il n'est pas sous-estimé? Puisqu'en réalité, on peut voir, il peut y avoir un bond dans un sens comme dans l'autre. Moi, c'est plutôt comme ça en fait, que je vois, où je me demande si les instituts de sondage vont tomber juste ou pas.
Voilà. Encore une fois, grande particularité des élections européennes, c'est la volatilité des électorats. C'est phénoménal. Les décisions se prennent dans les jours qui précèdent, si ce n'est le jour J, devant le bureau de vote. Et même la décision de participer à l'élection ou de ne pas y participer. Il y a quand même un énorme taux d'abstention aux élections européennes. Et c'est ça qui joue, c'est la mobilisation, comme beaucoup, qui peut renverser l'élection. Il y a un autre meeting qui s'est tenu à Strasbourg aussi, c'était mardi, c'était celui de Manon Aubry, la tête de liste pour la France Insoumise. On a un extrait vidéo de ce meeting de Manon Aubry, qui s'est passé dans un contexte un petit peu particulier. C'est le contexte des convocations judiciaires de Rima Hassan et de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme, entre guillemets, de scandaleuses tentatives du pouvoir policier d'intimider des femmes politiques en pleine campagne en leur reprochant des propos tenus ou des absences de propos tenus dans le contexte post-attaque du 7 octobre dernier. C'est un contexte très particulier parce que la France Insoumise mise beaucoup sur Rima Hassan, donc il y a une volonté de la part de la France Insoumise d'aller sur le terrain du conflit israélo-palestinien, mais à leur corps défendant aussi, ils sont mis sur le conflit israélo-palestinien par ces décisions. Est-ce que c'est une stratégie intéressante pour eux? Est-ce qu'ils sont dans la merde du coup à cause de ça?
Avant de revenir sur la stratégie, Jean, il faut dire que ce qui se passe, c'est un petit peu un tournant. On a une présidente d'un groupe d'opposition qui va être convoqué
par la police.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'elle n'est pas convoquée suite à une auto-saisine du procureur de la République, mais suite à une plainte d'un collectif d'avocats Bah, c'est simple, ils ont déposé des plaintes contre tout le monde. Daniel Obono, Rima Hassan, Mathilde Panot, ils se sont dit bon, on verra sur qui on va tirer des flèches, on va voir sur où est-ce que ça va planter. Et finalement, c'est rentré. Mais ce ne sont que des convocations par la police, on le rappelle. Tu l'as dit, Manon Aubry, en décidant de mettre Rima Hassan, qui est donc 1, 2, 3, présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés palestiniens.
Et elle-même franco-palestinienne.
Exactement. Elle décide de mettre, donc, en la mettant en position éligible et en parlant de Gaza aussi pendant cette campagne, elle décide de mettre donc la question de Gaza au cœur de la campagne.
Ouais.
Bon, ben moi, j'ai envie de te dire, dans un sens inverse, parce que c'est aussi des potes qui m'en ont parlé, en réalité, c'est la seule à le faire sur tous les chiquiers pendant la campagne européenne.
Et donc, ça peut mobiliser un électorat, tu penses ?
Ça peut en chasser, comme ça peut en surmobiliser en réalité, parce que moi, j'ai des potes qui clairement sont tapés total des européennes, mais sont en train de me dire, bon, bah, la seule qui est en train de parler aujourd'hui de Gaza au point de vouloir mettre une réfugiée palestinienne au Parlement européen, bah, c'est Manon Aubry.
Donc, c'est intéressant. Les questions internationales sont rarement les questions les plus décisives dans les élections d'une manière générale. C'est pour ça que je pose la question. Si tu regardes les priorités qui sont données par les électeurs, c'est d'abord l'inflation, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. Enfin, tu vois, c'est un peu les thèmes classiques. La question internationale est rarement prioritaire.
La donne a changé aussi ces quelques années.
Et là, avec
années.
L'Ukraine et la Palestine, ça, je pense, ça a redéplacé beaucoup de choses.
Ouais, c'est possible que l'Ukraine aussi, t'as raison, ait bougé les choses.
Bah, ça fait partie des préoccupations des Françaises et des Françaises, hein, malheureusement. Enfin, on voit la planète en guerre de part et d'autre. Il y a de l'éco-anxiété chez la jeunesse notamment, mais ça m'étonnerait pas que on montre également qu'il y a une anxiété en fait par rapport à la guerre en fait. Surtout que contrairement à d'autres générations, on n'a pas connu de guerre. Et j'espère que ça restera comme ça.
Je suis d'accord avec toi. C'est le retour du tragique dans l'histoire, pour citer un grand homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Safia, toi, tu es aussi inquiète de cette ambiance répressive ?
Je suis très, très inquiète de cette ambiance répressive, sachant que... Alors moi, je suis étudiante à Nanterre, donc j'ai milité sur la fac, sur la question palestinienne. Donc il faut savoir qu'en fait, ça fait des mois qu'on est harcelé ou menacé de mort, en fait, que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux, qu'on a des meetings, des événements qui ont été annulés parce que les présidences de nos facultés, dès qu'on a un événement qui s'organise, en fait, il y a des centaines, voire des milliers de mails qui sont envoyés et ciblés en fait, par les présidences d'universités de personnes qui soutiennent inconditionnellement les agissements de l'État d'Israël. Et en fait, ces mails-là sont très souvent menés par les mêmes personnes qui sont capables, de manière groupée, d'organiser des plaintes contre certaines figures militantes.
D'accord. D'où les annulations en cascade.
Exactement. Et d'où les annulations en cascade, du coup, dans les facs. Mais ça, c'est allié aussi avec, du coup, l'annulation de la conférence à Lille de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui a été scandaleux pour moi, ce qui a été un tournant et ce qui fait qu'on est sorti, entre guillemets, de notre entre-soi un peu répressif dans le monde universitaire, pour moi, c'est ces dernières semaines où la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, elle a été annulée une deuxième fois. Il faut savoir que le jour même, donc c'était jeudi dernier, il y a un syndicaliste de la CGT, CGT Nord, qui a été condamné à un an de prison avec sursis pour son soutien à la Palestine. Ensuite, on a eu des convocations en cascade d'Anas Kazib, de syndicaliste Sudrail, de Sima Asbag, ensuite Mathilde Panot, Rima Hassan. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on ne peut pas maintenant s'arrêter de se dire à qui le tour. Et il y a beaucoup de voix qui se sont prononcées, notamment à travers les réseaux sociaux, des voix qui sont plus à gauche que LFI. Donc on a les Olivier Besancenot, on a Anas Kazib, on a des organisations comme la Jeune Garde, on a aussi des organisations associatives qui ont dit « Et si on ne rentrerait pas dans une dynamique unitaire ?» Meeting, manifestation, rassemblement, collectif d'avocats, on n'en sait rien, pour faire en sorte qu'on ne se dise plus à qui le tour et qu'à chaque fois que l'un d'entre nous est touché, on riposte collectivement. Et là, c'est vrai que LFI s'est toujours positionné contre la répression, mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est que LFI a parlé des étudiants, a parlé du syndicaliste, ils ont parlé d'eux, mais ils ont très peu parlé des figures militantes et politiques qui sont plus à gauche qu'eux, plus petits qu'eux, qui ont été victimes de la répression. Parce que je pense qu'en fait, pour la France
en même temps,
insoumise...
ils ont refusé de faire alliance avec eux, donc...
oui, mais justement, moi, c'est ce que je me dis, c'est que dans un contexte de répression, on est censé mettre de côté les enjeux électoralistes. Parce qu'il faut savoir que pour LFI, l'enjeu pendant les élections européennes, je suis désolée, je bégaye un peu, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est qu'en fait, ils veulent dire, nous, dans la cour des grands, on est les plus à gauche, on porte la voix de la Palestine. Donc si vous voulez... S'ils se mettent un moment dans une dynamique unitaire et que les gens se rendent compte qu'en fait, il y a plus à gauche qu'eux et il y a des gens qui portent aussi la question palestinienne, bah forcément, ça peut noyer leur stratégie. En tout cas, ils ont une inquiétude. Et moi, je ne pense pas qu'ils devraient tellement s'inquiéter de ça parce qu'en réalité, je pense que les gens seront satisfaits d'une prise de responsabilité commune sur la question de la répression parce que ça inquiète beaucoup de gens.
Je comprends ce que, le seul truc que je pointais, c'est que la France Insoumise a refusé de faire alliance avec le NPA pour les européennes et que du coup, c'est compliqué cette démarche unitaire pour eux de le faire, du coup.
C'est
le drame de la politique. Hein.
Mais après, il y a quelque chose où en politique, c'est quand même pensé, c'est que dans un contexte de répression, le front uni peut exister. Ça ne veut pas dire qu'on discute des enjeux électoraux ou des enjeux stratégiques. Ces enjeux-là, sont souvent mis de côté quand on parle de répression.
Ouais. Lorraine, toi, tu faisais un parallèle avec Glucksmann et son combat pour les Ouïghours. Le fait de placer comme ça un combat international
Exactement. En fait, Raphaël Glucksmann a été notamment connu sur son réseau social, je pense, préféré, Instagram, pour avoir défendu la minorité ouïghour avec le fameux mouvement des PP, des profils, photos de profil bleus sur Instagram, ou même, en fait, moi, ça m'a super étonnée dans mon entourage, des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique avaient mis des photos de profil bleus, voire même, limite, j'étais une des dernières au courant dans mon entourage, j'en avais l'impression, parce que je ne follow pas Raphaël Glucksmann, mais bon, bref.
Sniper, c'est parti.
ça c'est dit. Non, je rigole. Mais il met en avant ça. Et de l'autre côté, il y a le va-t'en guerre. Donc effectivement, il est déjà il ne parle pas de tous les conflits. Ou en tout cas, il n'est pas aussi clair sur tous les conflits, notamment sur Gaza. Et justement, dans le contexte de répression, il y a LFI aussi qui est beaucoup, beaucoup accusé de mobiliser l'électorat musulman. Et tout à l'heure, on parlait de...
Accusé par les
fachos, clairement. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette stratégie d'internalisation, de mettre la question de Gaza en premier plan de la stratégie politique, même si c'est une question importante, c'est moi, justement, est-ce que ça ne va pas faire monter le RN, en fait, dans les urnes, en fait. Et moi, c'est vraiment une inquiétude que j'ai.
Puisque t'en parles,
aussi, quoi.
Puisque t'en parles, et on était juste, la transition est tout trouvée, je voulais qu'on parle justement du Rassemblement national. N'y a-t-il pas un paradoxe du RN donné aussi haut dans les sondages? Tu l'as dit, Malek, plus de 30%. Ils ont placé au cœur de leur campagne, la campagne de Jordan Bardella, la question de l'immigration. Et pourtant, c'est pas du tout un enjeu central dans les sondages. Pour les gens, 25%, voilà. C'est la place de l'immigration.
Est-ce qu'on est surpris?
D'où ma question. Comment t'expliques le paradoxe?
Ça peut aussi être une stratégie gagnante, j'ai envie de te dire, de ne pas prendre une des premières préoccupations, mais de se dire on va prendre une préoccupation de niche, donc les fachos, en leur donnant ce qu'ils veulent pour qu'ils votent pour nous. Il y a aussi c'est pas forcément l'enjeu du nombre sur les élections européennes, mais c'est surtout la question de la mobilisation, en réalité. La vérité, c'est que l'électorat de gauche va très peu se mobiliser, là où aujourd'hui, l'électorat de l'extrême droite voit une aubaine folle de, encore une fois, gagner une élection avec un nouveau visage, Jordan Bardella, qui est tant adulé par cet électorat, parce qu'en plus de ça, il leur vend avec ce truc New Wave, un discours qui leur convient toujours.
Et c'est aussi une particularité aussi de l'extrême droite, c'est la jeunesse de Jordan Bardella. Mm-hmm. Enfin, ils peuvent présenter... l'extrême droite a été représentée par le vieux Jean-Marie pendant des décennies.
N'est-ce pas ?
On est arrivé... ensuite, il y a eu du renouveau avec Marine Le Pen, mais enfin, c'est pas non plus la fraîcheur de la jeunesse. Et Jordan Bardella qui débarque et qui est vu par toute l'extrême droite comme... Le renouveau, il est exceptionnel, il est formidable, c'est le meilleur.
Le gendre idéal, exactement.
Voilà, le gendre idéal, le fameux gendre idéal. Vous savez que c'est vachement important pour beaucoup d'électeurs, ça.
Ouais.
Le vote au faciès, c'est un truc. Les gens qui présentent bien, ils ont des bonus de voix assez spectaculaires, notamment auprès de l'électorat âgé. Ça veut dire que les jeunes, ils votent pour les chums. Ils s'en battent les couilles.
On est déconstruit.
Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui pourrait faire chuter Jordan Bardella de ce piédestal sondagier? Est-ce que des frasques, des galères, des scandales, on a vu qu'il y a eu plusieurs candidats où il y a eu des sujets, Fabrice Leggeri qui est poursuivi pour crime contre l'humanité quand même.
Ouais.
C'est quand même pas rien. Mais est-ce qu'un électeur d'extrême droite, il en a quoi que ce soit à foutre ?
Qu'on rappelle peut-être qui est Fabrice Leggeri, c'est l'ancien directeur de Frontex, donc de l'agence européenne qui s'occupe entre guillemets de la sauvegarde des frontières et des gardes-côtes, mais qui a en réalité essuyé beaucoup de scandales. Vous vous souvenez, peut-être il y a quelques mois, en Grèce, il y a un bateau avec plusieurs centaines de personnes exilées et migrantes, en fait, qui a fait naufrage. Et on s'est rendu compte, à travers une enquête, que les gardes-côtes de Frontex n'ont pas répondu aux appels et aux appels d'urgence, alors qu'ils sont censés faire des sauvetages et après traiter les questions administratives. Donc ce directeur-là, il a rejoint la liste du Rassemblement national en position numéro 2 ou en numéro 3 ?
Je ne sais plus, mais il
est en numéro 3, il me semble. Et alors ça, c'est depuis avant-hier. Utopia 56 et la Ligue des droits de l'homme ont porté plainte du coup contre ce Fabrice Leggeri pour
crime contre l'humanité. Complicité de crime contre l'humanité.
Exactement, je ne savais plus lequel
c'est l'un des deux.
C'était.
Non mais bon, t'as ça, voilà, tu le poses sur la table. T'as les détournements de fonds. On rappelle les emplois fictifs du Rassemblement national au Parlement européen.
Petite habitude.
Non mais voilà, l'absentéisme de Jordan Bardella.
Complément d'enquête. Ah là, il est trop chaud. Et tu sais qu'apparemment, il y en a un deuxième qui se prépare. Et là, il a trop le seum. Il l'a dit sur Twitter.
Ah ouais ?
Ouais. Il a carrément genre un peu spoilé là.
Non, il a spoilé. Non, mais enfin, je veux dire, tu fais une collection de casseroles absolument phénoménales qui ne serait pardonnée à personne d'autre. Et Jordan Bardella, il s'en sort. Rien à foutre.
Mais parce que.
Mais c'est ça l'extrême droite. C'est vraiment cette capacité à s'en foutre complètement des règles.
Bah, des règles. Et parce qu'en fait, ils sont vus comme un parti anti-système, entre guillemets.
Ils le
sont.
Donc
en fait, finalement, qu'il soit absent au Parlement européen,
c'est quasi normal.
Barnella, c'est en mode, c'est normal, on est anti-système.
Oui, bien sûr.
Il y a un membre de la communauté Backseat qui m'a dit sur Twitter à l'annonce de l'émission ce soir, plus qu'une visite à Strasbourg et puis vous serez allé encore plus à Strasbourg que Jordan Barnella.
Incroyable.
C'est
C'est vrai, la dernière fois que je suis venu à Strasbourg, j'ai croisé Jordan Bardella dans un couloir et il y avait des caméras et des micros, il ne s'intéressait qu'à ça, il n'était pas en séance en train de voter.
Waouh.
Voilà. Mais,
un Pokémon rare.
Exactement. Donc voilà, donc, est-ce qu'on est en train de se diriger tout droit vers une élection remportée par le Rassemblement National de haute lutte ? Même pas de haute lutte parce qu'ils ne font pas campagne. Hein. Enfin, je veux dire,
c'est très facile,
Bardella,
hein,
Jordan Bardella est très absent. Et il n'en a rien à foutre. Et en même temps, il est dans la position du defender, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est en tête dans les sondages. Moins il en fait, mieux c'est. Il n'y a que des coups à prendre, il n'y a que des points à perdre. Il n'y a rien à gagner.
Exactement. C'est comme Marine Le Pen. Toute la séquence 2023, elle a gagné des points sur son silence. Et ça fait partie... Enfin, en fait, leur stratégie de normalisation repose beaucoup sur du silence ou sur des petites avancées tactiques. Sauf que là, c'est vrai que dans cette période électorale, ils sont bien emmerdés parce qu'ils ont eu des couacs sur leur liste avec différentes figures qui, du coup, ne rentrent pas dans leur stratégie de normalisation. Et ensuite, il y a l'ambiance de l'extrême droite européenne. Ils sont alliés avec des groupes qui, eux, ne font absolument pas ce pari-là.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un point, justement, s'il te plaît, Safia, sur les groupes d'extrême droite au Parlement européen, puisqu'il y en a deux ?
Tout à fait. On a d'abord le groupe Identité et Démocratie. Eux, c'est the faff of the faff. C'est vraiment les plus poussés. Alors, les trois partis majoritaires qui occupent ce groupe Identité et Démocratie, on va avoir le Rassemblement National pour la France, on va avoir l'EDIA, qui est du coup le parti de Salvini, si un peu, en fait, si vous voulez, les descendants de la Ligue du Nord en Italie, et on va avoir l'AFD en Allemagne, qui est le troisième parti qui occupe le plus de place dans l'idée. Il faut savoir que l'ambiance est assez tendue, puisqu'en fait, Marine Le Pen est assez embêtée, du coup, par ses copains et ses copines, puisque l'AFD a fait polémique ces derniers mois, puisqu'ils ont organisé, soi-disant en secret, mais ils se sont fait cramer par les journalistes, merci les journalistes, d'une conférence, voilà, d'un plan pour organiser la rémigration de personnes allemandes et étrangères dans leur pays d'origine. Et ça concernait notamment principalement les personnes noires, arabes musulmanes, juives et issues du coup du Moyen-Orient, de Turquie, etc.
4 millions de personnes dans leur plan.
Exactement. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de rappeler qu'on parlait de 4 millions d'êtres humains. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, en Allemagne, il y a eu des manifestations de millions et de millions de personnes. Ce réveil, en tout cas, moi, m'a fait beaucoup de bien. Et Marine Le Pen a du coup envoyé un tacle à ce moment-là à l'AFD. Il faut savoir que l'AFD leur a répondu en mode « Oui, mais je comprends pas, Marine Le Pen, t'arrêtes pas de faire des sorties à Mayotte. Mais nous, vous savez, on est pour l'autodétermination des peuples. » Et en fait, ils se renvoient la balle comme ça, c'est le gros bordel. Et on a un autre groupe qui est le CRE, c'est les conservateurs réformistes du coup de l'Union européenne. Et là, surprise, surprise, moi je ne savais pas, mais en fait le parti du coup de Meloni, Fratelli d'Italia, en fait font partie de ce groupe-là. Donc c'est un groupe, si vous voulez, qui se veut normalement de droite dure, qui ne s'étiquette pas extrême droite, mais en réalité on a des forces d'extrême droite qui sont dans ce groupe CRE. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux groupes? Parce qu'on a deux personnes très importantes, le Premier ministre de Pologne et Viktor Orban de Hongrie, que vous connaissez toutes et tous pour ses sorties absolument affreuses sur les personnes LGBT, sur ses sorties homophobes et contre les personnes migrantes.
Sur les droits des femmes aussi.
Et sur les femmes, merci. Qui rentre en discussion avec les deux groupes, donc avec le CRE et avec le groupe du coup ID, parce qu'il faut savoir que le groupe de Viktor Orban, quand ils étaient à l'Union européenne en 2021, ils faisaient partie du groupe, on va dire, plutôt centriste de droite, PE. C'est le groupe Ursula von der Leyen, par exemple, la présidente de l'Union européenne, pardon, je vais y arriver, elle fait partie de ce groupe-là. Ils sont partis pour des raisons d'idéologie politique, et là, en fait, si vous voulez, après le 9 juin, ça va être ultra important parce qu'en fait, Viktor Orban et le Premier ministre polonais vont choisir leur groupe. Et en fait, Marine Le Pen, ce qu'elle voulait, c'est que de base, c'est que le CRE et le groupe ID se regroupent et fassent un espèce de super groupe d'union des droites pour super l'extrême droite, boum, 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 super facho, grosso modo, exactement. Sauf qu'en réalité, les désaccords sont extrêmement forts et là, les seules choses qui peuvent être envisagées, c'est une coalition. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la stratégie de normalisation du Rassemblement national, le Rassemblement national n'a aucun mal à entrer en négociation avec des personnes comme Viktor Orban, qui, elles, ne se cachent pas de leur extrémisme et qui, juste, et elles, Marine Le Pen et Jordan Bardella, pardon, en sont très contents d'être aux tables des négociations.
Merci beaucoup, Safia, pour ce point sur les groupes d'extrême droite au Parlement européen. On est toujours en direct ici à Strasbourg du Parlement européen. On va marquer une petite pause. Après la pause, on se retrouvera avec deux invités exceptionnels. Karima Delli, députée européenne Les Verts depuis 2009 et qui termine son mandat. Et Fabienne Keller, députée européenne Renew depuis 2019, ancienne sénatrice et ancienne maire de cette très jolie ville de Strasbourg. Nous les recevrons en plateau juste après la pause. C'est parti pour la pause.